Michel Houellebecq, alors pourquoi vous aviez annoncé la suspension, l'arrêt des interviews, des entretiens, de la promotion du livre en France? Bon, bien sûr, il y a eu l'étape allemande. Pourquoi aujourd'hui reprendre des entretiens à propos de votre livre ici, chez nous?
J'ai arrêté parce que j'étais trop déprimé pour parler de mon livre. Et disons qu'après les obsèques de Bernard Maris, ça va un peu mieux. Mais l'Allemagne, c'était prévu que j'y aille le lundi, et donc ces obsèques le jeudi, donc voilà, j'ai pas annulé. La réponse à une question que je me posais en allant aux obsèques, c'est que finalement son livre est suffisamment avancé pour pouvoir être publié. Donc il va sortir. Il avait changé de titre, et maintenant ça s'appelait « Et si on aimait la France ?».
Et quel en était le thème? Vous aviez l'occasion justement d'en parler avec lui?
Le thème, en fait, c'est la représentation que la France se fait d'elle-même au cours des siècles, en fait. Donc c'est un ouvrage qui couvre pas mal de longues périodes, apparemment.
Et puis on se dit que c'est un sujet en plus qui doit beaucoup vous intéresser.
Oui, envisagé à travers la littérature, plutôt.
Comment définiriez-vous ce lien d'amitié qui vous unissait?
C'était un lien d'amitié assez récent, mais quelque chose qui partait très bien, quoi. Donc c'était extrêmement triste. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui en avait un petit peu assez, je crois, de l'économie, qui de plus en plus se tournait vers la littérature pour comprendre le monde différemment. Et effectivement, ce livre, il parlait de Michelet, de Banville, donc pas tellement d'économiste, quoi, mais... Donc c'est, bon, en plus du fait que ce soit triste personnellement, c'est une évolution intellectuelle brisée, quoi.
Il avait évoqué avec vous, c'était arrivé justement, les menaces qui pesaient sur Charlie Hebdo et peut-être par extension contre lui-même.
Mais non, pas du tout, mais d'ailleurs j'ai mis du temps à comprendre qu'il pouvait avoir été touché, quoi, parce que comme il faisait vraiment que des chroniques économiques... Moi, je me suis tout de suite dit que Charb s'était fait tuer, quoi. Mais j'avoue que je pense même pas qu'il ait prononcé le mot islam dans une de ses chroniques. Enfin, donc non, l'idée m'est pas venue tout de suite, bêtement.
Est-ce que vous-même, vous avez reçu des menaces avec la publication de Soumission, mais aussi en référence à vos propos anciens contre l'islam?
Non, j'ai pas reçu de menaces, non.
Pas de mesures de protection donc particulières ou depuis les événements?
Si, quand même, si. Bien que je n'ai pas été directement menacé, mais je ne sais pas, moi je fais confiance à la police, en fait. Je suppose qu'ils doivent passer un bout de partie de leur temps à regarder ce qui circule sur Internet ou des choses que je ne regarde pas, quoi. Donc ils savent mieux que moi, en fait.
Ce qui veut dire que vous avez une protection,
oui,
désormais?
Oui.
De policiers en armes qui vous accompagnent dans tous vos déplacements?
Oui.
Est-ce que ça change la façon de voir la vie quotidienne ou son propre destin?
Pour pas les faire déplacer pour rien, c'est obligé à faire des listes de courses, quoi. Je veux dire, mais à part ça, non, ça change. Moi, je trouve pas ça tellement gênant. C'était amusant, le cas de Cabu ou de Charb, mais moi, j'ai toujours bien aimé la police, quoi. Enfin, ça me...
On se souvient de cette évocation et de votre travail d'enquête au Quai des Orfèvres pour la carte et le territoire.
Donc non, ça me dérange pas beaucoup.
Ce qui s'est passé après la tragédie de Charlie Hebdo, cette espèce de sursaut du pays, cette marche républicaine, est-ce que d'une certaine manière, ça ne rend pas caduque le scénario que vous avez imaginé d'une arrivée au pouvoir d'un parti musulman et de cette soumission justement de la société française à l'islam?
Bon, enfin moi, je n'y suis pas allé parce que je venais juste d'être protégé et puis bon... J'ai bien vu qu'ils étaient très occupés ce jour-là, donc je me suis dit, je vais m'abstenir pour pas leur donner... Moi, j'ai pas du tout trouvé ça républicain, quoi. C'est juste que les Français soient attachés à la liberté d'expression, ce qui compte beaucoup plus à mes yeux, en fait. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais sinon, la liberté d'expression, c'est un thème qui dépasse de beaucoup la République, quoi.
Est-ce que vous, qui êtes le scribe d'une espèce d'apathie du monde contemporain, est-ce que là, justement, on n'a pas vu que cette société est encore capable de se mobiliser pour des valeurs, de réagir, et qui, en l'occurrence, donc, sont celles de la liberté d'expression ou de la laïcité?
Ouais, enfin, bon, on pratique quand même le parti de ceux qui disent « oui, la liberté d'expression, c'est très bien, il ne faut quand même pas blasphémer, il ne faut pas insulter les religions, c'est très sacré pour eux ». Il n'a pas du tout baissé, il a même reçu un renfort de poids en la personne du pape, donc je n'ai pas du tout apprécié la déclaration, en fait. Elles m'ont consterné, même. Donc non, non, les ennemis de la liberté d'expression sont toujours là et actifs. Ceux qui s'exprimaient déjà, qui disaient, bon, faut pas exagérer quand même, faut pas blasphémer, ils ont été un peu trop loin, ils ont mis de l'huile sur le feu, donc, disent toujours la même chose, hein. Ils n'ont pas changé d'avis. Enfin, faut voir les choses en face, que c'est quand même une grosse victoire pour les djihadistes. Ils ont remporté une grosse victoire. C'est-à-dire la France, pour différentes raisons, sans doute politiques, étrangères, était une de leurs cibles privilégiées. Certainement Charlie Hebdo était leur cible la plus célèbre, d'assez loin. Ils ont remporté une vraie victoire. Ben, la vraie victoire, déjà pour eux, c'était d'assassiner les gens de Charlie Hebdo et de prouver qu'ils pouvaient le faire. Ce qu'on a appris n'est pas très rassurant. Hein. Je sais pas le nombre de gens qui sont prêts à passer au meurtre. Chaque évaluation, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, quoi. Par ailleurs, moi, ça m'a surpris. J'étais resté sur l'idée que c'était assez difficile de se procurer des armes de guerre en France. Apparemment, pas tant que ça. Oh, manifestement, à mon avis, ces gens ont pour projet de déclencher une guerre civile en France, en fait. La seule chose qui leur manque jusqu'à présent, c'est les adversaires. Par exemple, on n'a pas d'Andrés Breivik en France. Si on avait des Andrés Breivik, on commencerait à se rapprocher beaucoup du scénario de la première partie de mon livre. Bon, là, je pense qu'il y aura d'autres attentats, évidemment, hein, avec bon, la cible permanente restant les Juifs. Donc non, il n'y a pas vraiment pas de quoi être rassuré.
Alors, ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est toute cette France qui n'est pas Charlie, et en particulier chez certains jeunes. Que leur dire?
À mon avis, nous, rien. Les seuls qui peuvent dire quelque chose, c'est les autorités religieuses. Vous voyez, une des choses les plus déchirantes, c'était quand même l'imam de Drancy, sur les lieux de l'assassinat. Parce que lui, bon, l'islam n'est pas ça, l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Lui, on peut penser qu'il sait de quoi il parle, et aussi, c'est pas à nous qu'il s'adresse, c'est aux musulmans. Et je l'ai senti complètement dévasté, et peut-être à deux doigts de renoncer, quoi. Parce que il a écrit tous ses articles, tous ses livres pour défendre sa vision de l'islam. D'un seul coup, on a eu l'impression qu'il se disait qu'il avait perdu. Il n'avait pas réussi à imposer son interprétation et que les violents avaient triomphé. À mon avis, l'islam est en train de payer assez lourdement, en fait, hein, très lourdement même, le fait de ne pas avoir, contrairement au catholicisme, une hiérarchie spirituelle avec les évêques, le pape et tout ça. En dernier ressort, le pape, quand même. Et ça, parce que si on se met dans la peau d'un esprit religieux, être excommunié, c'est terrible. Bon, pour l'islam, évidemment, ce ne serait pas excommunication, mais ce serait être retranché. La communauté des fidèles est un truc qui fait peur, incroyant. Et moi, je suis persuadé intimement que s'il y avait une autorité spirituelle analogue au pape, dans l'islam, en moins de 20 ans, il n'y aurait plus de djihadistes. Parce qu'ils n'oseraient pas braver le péril d'être retiré de la communauté des fidèles.
Charlie Hebdo, vous l'avez acheté, vous l'avez lu, donc le numéro d'après.
J'ai pas réussi à l'acheter jusqu'à présent. J'étais en rupture de stock tous les jours où j'y suis allé. Ouais.
Justement, sur leur réaction de remettre le prophète en une, pour vous, c'est du courage ou c'est une provocation?
C'est du courage et je pensais pas, vu le caractère qui me paraissait particulièrement gentil du dessin, que les réactions seraient aussi vives dans différents pays. Donc non, je vous dis, c'est encore pire que je pensais, qu'en réalité, on peut pas être optimiste, quoi. Ce serait dément d'être optimiste. Je sais pas, ce dessin est gentil.
La liberté d'expression, elle est totale ou elle n'est pas?
J'ai pas dit qu'elle devait être totale. On peut discuter sur les atteintes à la vie privée, la diffamation, mais elle doit permettre de s'attaquer à une religion, oui. Sinon, je sais pas, c'est quand même un système de pensée, quoi. Enfin, parce que quelqu'un décrète quelque chose de sacré, que ça le devient pour tout le monde. Enfin, c'est un système de pensée, une religion. C'est pas très différent d'une philosophie, quand même. Donc, oui, on doit pouvoir attaquer une religion.
C'est pour ça que vous avez dit en Allemagne que votre livre n'était pas islamophobe, mais que vous admettiez le droit à écrire un livre islamophobe.
Oui.
Mais alors, est-ce qu'on peut écrire, enfin publier des écrits ou faire un spectacle antisémite? Évidemment, vous voyez bien où je veux en venir. Est-ce que Dieudonné a droit lui aussi à sa liberté d'expression?
C'est pas symétrique, hein. Islamophobe et antisémite, c'est pas symétrique. La symétrie exacte d'islamophobe, ce serait anti-judaïque, qui existe d'ailleurs, y compris chez moi, un de mes auteurs favoris, qui est Schopenhauer, qui n'est absolument pas antisémite, mais qui est très clairement anti-judaïque, parce qu'il est hostile au monothéisme et qui considère à juste titre le judaïsme comme la racine du monothéisme. Donc voilà, on peut être anti-judaïque, mais pas antisémite. On peut être anti-islam, mais pas anti-musulman. Enfin, la distinction me paraît claire, enfin, relativement simple, quoi. Parce que la base est qu'on peut changer de religion comme on peut changer de système de pensée, et que c'est pas consubstantiel à vous.
Donc on peut sanctionner Dieudonné ou l'empêcher de s'exprimer sur une scène.
Écoutez, en fait, j'ai jamais écouté un seul spectacle de Dieudonné. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne sais pas ce qu'il fait au juste, quoi. Mais
Et sur le principe?
en cas d'antisémitisme, oui, d'appel au meurtre de gens ou de choses comme, parce qu'ils sont juifs, oui, de même qu'on pourrait le faire avec des musulmans. Mais de toute façon, je ne crois pas que Dieudonné soit anti-judaïque, c'est trop compliqué pour lui, à mon avis. Donc oui, vraisemblablement, de pouvoir sanctionner Dieudonné.
Et ce devoir, alors là c'est l'actualité, le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, ce devoir de mémoire, il est absolument nécessaire.
Il ne semble pas que ça serve à grand-chose, pour être honnête. Enfin, c'est à peu près aussi efficace que la laïcité, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, mais il ne faut pas trop se faire d'illusions sur le résultat, quoi.
Manuel Valls, au lendemain de l'attentat Charlie Hebdo, a dit Houellebecq, ça n'est pas la France, en parlant en particulier de votre livre, pas forcément de vous, de votre personne, mais de ce livre Soumission. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Il ne me fait pas bonne impression. J'ai l'impression qu'il est colérique et qu'il manque de sang-froid. Donc, ce qui peut être ce qu'il y a de pire, hein, pour un homme politique. Manque de sang-froid, c'est qu'il agit sous le coup de la colère. Bah, les gens qui pourraient me mettre en danger n'écoutent pas Manuel Valls, de toute façon. Enfin, non, mais j'ai l'impression qu'il c'est un colérique, dénué de sang-froid, et très mauvais pour un homme politique, tout ça. Dès qu'il y a guerre ou crise grave, les groupes de popularité s'envolent. Ça pourrait être n'importe qui, serait pareil. J'ai pas été spécialement impressionné. Enfin, je veux dire, si la question, est-ce que la droite aurait été. Ça aurait été pareil, quoi. Les courbes de popularité se seraient envolées aussi.
Comment faire taire une bonne fois pour toutes ceux qui accusent Soumission de faire le lit de l'islamophobie et du Front National?
Je pense qu'il suffit de lire le livre. Hein, oui, enfin, de toute façon, le sujet est arrivé à un tel point d'hystérie que je pense pas que quoi que ce soit, surtout pas un roman, puisse aggraver les choses, quoi, en fait. Non, mais réellement, enfin, je veux dire, ça peut pas être.
Ça n'est pas une façon de se dédouaner là, un peu facile.
C'est une façon de se dédouaner qui est exacte, déjà. À vrai dire, ce serait surprenant parce que ça se passe plutôt bien si on examine l'arrivée du parti musulman au pouvoir.
Dans votre livre, oui.
Oui, il y a même des choses qui se passent incroyablement bien, dans un sens. Donc on ne peut pas dire que ça attise les peurs, quoi. Non, ce qui fait peur dans ce livre, je vous dis, c'est la première partie. C'est-à-dire que des gens non représentés, et sentant qu'ils ont la démocratie ne marche plus, se radicalisent. Passe à l'action violente et des gens un peu de tous les horizons. C'est ça qui peut inquiéter, légitimement, si on arrive à des résultats électoraux aussi aberrants que ceux que je décris. Aberrants parce que correspondant pas à ce que veut réellement la population, quoi. Donc c'est une démocratie qui ne fonctionne plus. Et ça, c'est inquiétant, ouais, quand même. Ça peut donner lieu à des troubles.
Là, on retrouve en partie le discours de Marine Le Pen qui ne cesse justement de réclamer une meilleure représentation du Front National, de militer pour la proportionnelle.
On peut difficilement lui donner tort sur ce point. Enfin, c'est l'injustice du truc est quand même criante, quoi. Là, ça devient énorme, quoi. L'écart devient énorme entre le nombre de députés, le nombre de voix. Enfin, ça va plus, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Vu le nombre de voix qu'il a, et comparé à ce nombre de députés, Front National, c'est quand même pas normal. Et disons qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement des institutions qui ne marche plus, quoi. La représentation ne se fait plus. Et ça, on se dit que c'est pas sain. Ça ne peut qu'avoir de mauvaises conséquences.
Marine Le Pen, alors dans le livre, bien sûr, elle y figure, puisqu'elle est battue au deuxième tour, mais il n'y a pas de. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait vraiment un portrait, que vous parliez d'elle. Quel regard vous portez sur cette figure de la vie politique aujourd'hui?
Indéniablement, le Front National correspond à quelque chose. Je l'écoutais, je suis pas très 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 sûr qu'il y ait une ligne très claire, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle essaye de capter tous azimuts en ce moment. Enfin, vraiment dans une stratégie de conquête de pouvoir, donc elle essaye de capter tout ce qui a pu être gaulliste, chevènementiste, voire très à gauche, enfin, sans, en même temps sans perdre le public de droite. Donc elle est un peu dans toutes les directions, quoi. Ouais, ça donne pas l'image d'une ligne politique très claire.
Il y a donc dans ce livre, ce qui pour beaucoup de lecteurs va être une découverte, une réhabilitation de Huysmans. Ce serait pas mal non, de le publier enfin à la Pléiade.
Antoine Gallimard est tout à fait d'accord, hein. C'est juste je sais pas, un oubli.
Donc ça va se faire.
Oh, il me l'a promis pas, il a pas signé le papier, mais effectivement, ça l'a étonné en lisant mon livre de constater que Huysmans c'était pas la Pléiade. C'est quand même un auteur, c'est une voix unique. Personnel, qui ressemble à un parcours très curieux. J'aime bien la partie naturaliste hein, aussi de son œuvre. Arbour, et puis bon, la conversion au catholicisme. C'est vraiment quelqu'un de. Ben, s'il n'existait pas, il manquerait quelque chose.
Donc ça, en principe, ça va se faire.
Oh, je pense, oui. Oui, ça prendra le temps nécessaire, mais ça va se faire.
Alors on termine avec la bonne nouvelle du jour. Donc Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancausse, a dit le plus grand bien de votre roman à la radio suisse romande et elle se dit même favorable à votre entrée à l'Académie française. Que lui répondez-vous, Michel Houellebecq?
Académie française, oui. Ben, c'est gentil. En même temps, je dirais, ils ont déjà eu des problèmes avec Finkielkraut. Il y a eu des polémiques. Je ne sais pas si je vais leur imposer ça tout de suite, quoi. Je veux quand même le. C'est quand même. Non, mais c'est vrai. Objectivement, voilà, on va laisser digérer Finkielkraut. Oui, ben, je pense que je pourrais être utile. Sur certains mots, j'aurais des opinions.
Lesquels?
Oh, attendez, attendez. Là, comme ça, je trouve pas. Mais oui. Oui, éventuellement, je pourrais être un candidat valable.